philosophie de la famille chrétienne par le père Marie-Dominique Philippe le 10 octobre 1994 à Rimont.
De leur responsabilité d'éducation vis-à-vis des enfants. Comment est-ce que l'éducateur peut, faire prendre conscience aux parents de leur responsabilité?
Sûrement.
Et les aider.
Okay, c'est ça qu'il doit y avoir, c'est qu'il doit y avoir une coopération. Mais ça se fait.
aussi qui abdiquent de leur...
Incapables, abdiquent parce qu'ils ont peur. On a peur d'exercer l'autorité. On a peur de complexes et de petites vengeances. Alors on a peur. Et ça devient exceptionnel, les milieux normaux maintenant. Hein. Et c'est vrai, ça devient exceptionnel. Alors vous voyez, je me suis d'accord que ça fait partie de l'éducation. Vous faites bien de le rappeler, parce que ça fait partie de l'éducation qu'on a, on doit faire. Pour moi, ça fait on fait attention au cas, comme on dit, social de chacun, au cas familial. Parce que sûrement qu'on n'éduque pas de la même manière quelqu'un qui est orphelin spirituellement. Parce que c'est encore pire que d'être orphelin. Carrément, oui. Je voyais parmi ceux qui entrent là, qui sont entrés, hein, qui est du reste très gentil. Et spontanément, il m'a dit, je n'ai pas eu de parents. Ans, 14-15 ans, imaginer les enfants. Parce que c'est une décharge de leur imaginaire. Il faut que ça sorte. Avec dessiner. Et ceux qui ont du talent pour dessiner, pour faire des... Et je ne dis pas qu'ils doivent dessiner pendant les cours, mais en dehors des cours. Parce qu'il y a, quand on regarde les cahiers, vous savez, je ne fais pas d'inspection. On voit des petits dessins. On comprend très bien ça, ça fait partie de la détente. Vous voyez ? Si on est un petit peu artiste, si on a une très grande imagination, il faut canaliser l'imagination par le point de vue artistique. L'art canalise merveilleusement l'imaginaire. Dans le domaine de la musique, dans le domaine du chant, dans le domaine du dessin, dans le domaine de la danse. Ça canalise. C'est pour ça que les anciens grecs comprenaient que ça faisait partie de l'éducation. La musique, la danse. Bon, il est évident comme un pays cartésien comme le nôtre, la danse et le dessin n'est pas compris dans l'image. Ça commence, ça reprend. Et l'éducation des bons pères jésuites depuis le XVIIe siècle jusqu'à maintenant n'appliquait pas beaucoup ça. On considérait que c'était un petit peu inutile. Et les familles, les bonnes familles chrétiennes considéraient si jamais un enfant annonçait une fille annonçait qu'elle était pour la danse, c'était la terreur de la famille. Elle va se pervertir, c'est vieux. Okay. C'est à peu près vu le climat qu'il existe, il faut se dire ça. Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas voulu intégrer certains arts dans l'éducation. Est-ce que ça... Oui.
Quel sera le rôle de la musique?
Ce serait très grand.
Est-ce qu'on peut reprendre ce que dit Aristote?
Oui. Je crois.
Même pour l'éducation chrétienne?
Mais tu l'avais, pourquoi pas? Ce ne sont pas les mêmes gens. Ce ne sont pas les mêmes chansons. Le rock, c'est plus dangereux. Vous voyez, si la musique excite les passions, c'est pas éducable. Si la musique excite l'irascible, qui n'a pas... bonhomme. Parce que il a pas. Il a coupé le point de vue affectif et le point de vue artistique. Il a une culture qui est stoïcienne. Les stoïciens ne développent pas beaucoup l'art, c'est une perte de temps. Il faut être volontariste. Et les pères jésuites, dans leur éducation, c'est la volonté. Et alors, facilement, ils considéreront que l'art, c'est quand même quelque chose de la fantaisie. Et si c'est de la fantaisie, une perte de temps. Pas sérieux. Alors, je crois, là, il faut être attentif. Quelqu'un qui est doué, il faut développer. Ça lui servira toujours. C'est ça qui est très extraordinaire. Dans notre monde d'aujourd'hui, un certain développement artistique permet aux personnes d'avoir des liens. Les artistes entre eux, tu vois, à la fois, il ne faut pas une vie commune d'artiste. C'est très difficile. C'est très difficile une vie commune d'artiste. Parce que les artistes, ordinairement, sont plutôt. Ont leur originalité très individuelle. Plus que personnelle. Très individuelle. Alors ils s'opposent très vite. C'est très difficile une vie commune d'artiste. Mais. Ça, c'est un fait. Alors il faut un très grand équilibre religieux, spirituel, pour permettre ça. Autrement, ça va pas. Chacun va de son côté. Il y a le développement, alors plus lent, parce que le développement artistique peut s'éveiller très vite. Très très vite. Mais ça fait partie de ce que Camus dit quand il dit que c'est la morale aujourd'hui n'a plus aucune force sur la jeunesse si vous éduquez du côté de l'art et de la beauté. Il y a quelque chose de juste. Il y a quelque chose de juste. C'est pas entièrement vrai, mais il y a quelque chose de juste. Parce que Camus n'a pas eu beaucoup d'éducation morale dans sa jeunesse, moi aussi. C'est le livre qui vient de paraître est vraiment une autobiographie. On voit très bien, c'était dans un milieu qui était extraordinaire pauvreté, simplicité de vie, très droite, comme rectitude, mais très, très fruste. Je crois que, à côté de cette éducation, il y a l'éveil de la prudence. Alors, la prudence, c'est l'intelligence pratique, comme l'art. Mais dans la pratique très différente, puisque c'est pour nous permettre d'agir correctement. Donc, avec l'éveil de la prudence, il y a l'éveil des vertus. C'est ça qui est très étonnant. Et c'est dans la mesure où la prudence disparaît que les vertus disparaissent. Et ça, on l'a beaucoup trop oublié. Parce qu'on a insisté plus sur les vertus de tempérance, les vertus de force, les vertus de justice que sur la prudence, vertus intellectuelles, affectives, une intelligence affective, c'est sûr, une intelligence éprise d'amour, une intelligence ordonnée à la fin. Mais comme les vertus sont connexes, la recherche de la prudence, vous voyez, la prudence, si elle est bien vue, c'est une noblesse de l'intelligence, puisque ça nous permet d'avoir plus d'autonomie et d'acquérir une autonomie. La prudence nous fait acquérir une autonomie. La prudence nous permet d'obéir sans être esclave. Et ça, c'est énorme. C'est la prudence qui doit l'éveil de la prudence, et je crois qu'on peut être assez vite éveillé à la prudence. Mais c'est surtout un peu plus, vers 14-15 ans. Je crois que là, il faut éveiller à la prudence. Enfin, il faut veiller à l'éclosion de la prudence. Et une prudence qui va suis, c'est très très important de redresser, mais très radicalement, ce que la plupart conçoivent par l'obéissance. C'est-à-dire, parce que de fait, l'obéissance implique l'autorité. Dans la prudence, vous êtes autonome. Dans l'obéissance, vous êtes dépendant d'une autorité. C'est pour ça que les deux doivent se développer presque simultanément. En montrant par la prudence que l'obéissance, loin de nous replier sur nous-mêmes, loin de diminuer notre champ d'action, dans sa vie des périodes où on avait un tyran. Pas très grand, heureusement, parce qu'on est encore là. Mais un petit tyran. On a tous eu des professeurs un peu tyrans. Et des éducateurs un peu tyrans, de temps en temps. Mais des intermédiaires. C'est souvent les intermédiaires qui sont tyrans. Parce qu'ils sont pris entre les deux. Entre le marteau et l'enclume. Le marteau pris de façon symbolique. Le marteau étant la véritable autorité qui enfonce les clous. Et l'enclume étant celui qui bâtit. Et on est pris entre les deux. Les cris de celui qui bâtit et le bruit du marteau. Et c'est les tyrans, c'est souvent comme ça, c'est souvent des... Vous voyez, le type adjudant intermédiaire, vous voyez, qui vieillit dans l'intermédiaire, alors il est aigri, parce qu'il ne gagne pas de galon. Et dans toutes les sociétés, on voit ce type-là, ce genre-là, d'intermédiaire, qui, alors qu'ils sont des tyrans. Il y a un manque d'air, il doit être bas. Consiste à se mettre le moins possible sous son joug. On est obligé un tout petit peu de passer devant lui de temps en temps, mais de passer le moins possible. C'est ça. Et la tyrannie peut exercer même au niveau spirituel. Il y a des prêtres qui peuvent être des tyrans, hélas. C'est terrible, parce que c'est juste l'inverse de ce que devrait être le prêtre. Mais ça peut. Des pions. Alors ils viennent vraiment des tyrans. Et alors ça, je crois qu'il faut assez vite éduquer la prudence là-dessus. Surtout aujourd'hui. Parce que c'est ça qui fait haïr l'autorité. Parce qu'on confond le tyran et celui qui a véritablement autorité. Le véritable qui a autorité, le pédagogue doit avoir cette autorité, c'est celui qui aide le plus faible. Qui le soutient. Et qu'il apprend à obéir pour se libérer, pour s'agrandir. Et la prudence doit pouvoir faire, voyez, le partage entre le tyran et le vrai qui a autorité. Je vous dis, ça existe même au point de vue ecclésiastique. Et ça joue beaucoup, ça. Je suis persuadé que l'Église n'est pas aimée comme elle devrait être aimée, parce que très souvent, le prêtre qui a autorité transforme l'autorité en pouvoir. Il régit un certain nombre de personnes et il gère un certain nombre de personnes sous sa tutelle. Alors que ça devrait être l'inverse. Mais alors, c'est très intéressant et très important de voir les liens entre l'éveil de la prudence. La croissance de la prudence avec l'autorité, avec l'obéissance. Oui, parce que c'est une question de prudence, de discerner ceux qui ont véritablement autorité sur nous et ceux qui n'ont pas autorité sur nous et qui abusent de leur autorité. Et alors à ce moment-là, il faut que la prudence s'allie à la force, parce qu'il faut beaucoup de force, pour éviter le tyran. Parce qu'il croit toujours qu'il nous en rend. Il croit toujours qu'il va pouvoir nous mettre une muselière pour qu'on le morde pas. Et à ce moment-là, il t'apprend. C'est les tyrans classiques. Réfléchissez aux tyrans que vous avez eus. Là, vous avez le droit de faire la caricature. Tyran. Et que peut-être vous n'avez pas été assez prudent à ce moment-là, parce que vous n'étiez pas assez averti. Et ça fait partie de la véritable éducation de la prudence. Dans un monde comme aujourd'hui, la prudence doit jouer, mais au point de vue éducation, entre celui qui a autorité, qui est un vrai serviteur, et qui nous aime, et qui exerce son autorité par amour pour nous, et qui alors nous permet de grandir, et le commencer par la tête. Alors quand la tête devient tyrannique, ça devient effrayant. Il n'y a pas grand danger dans la communauté Saint-Jean pour le moment. Mais on ne sait jamais, il faut prier le Seigneur pour qu'il n'y ait jamais de tyran qui soit supérieur. Que jamais on élise un tyran comme supérieur. Jamais. Parce qu'il peut avoir des tempéraments, vous voyez, un atavisme. éveiller le point de vue de l'amour, éveiller sa véritable autonomie dans l'indépendance totale à l'égard de Dieu. Et éveiller en nous notre vraie liberté, la liberté religieuse. Et comprendre que là, nous sommes tous responsables de cet éveil. Et dans le sens de la prudence, doit se développer cette activité religieuse. L'éducation demande d'être religieuse. Et faire une éducation qui n'est plus religieuse au nom d'une psychologie, quand on dit que la psychologie n'est pas religieuse, je dis c'est faux. Une psychologie demande. La psychologie en soi n'est pas religieuse, ce qui montre les limites. Parce que l'activité humaine doit nécessairement opter à un moment donné. L'option. Dans une famille chrétienne, ça fait très vite. À 7 ans. Première communion. 6 ans. 5 ans. Et là, il y a une option. Et je crois que si on maintient la prière en famille, c'est cette option qui se maintient. Jusqu'au moment où, de fait, cette option deviendra plus personnelle. Mais c'est une option très très importante, celle-là, vous voyez. Je crois qu'au niveau de notre prudence humaine, c'est l'option la plus importante. Faire comprendre à un jeune qu'il doit prier. Que, alors, si souvent on commence à douter, il faut lui dire, mais tu n'arriveras à enlever tes doutes que par la prière. Et si tes doutes sont trop forts, le pari de Pascal. On peut employer, c'est possible avec ça. C'est un peu particulier, mais si Dieu n'existe pas, bon, tes prières, c'est pas perdu, ça te calme, ça te baisse. Et si Dieu existe, tes prières, ça c'est merveilleux. Dieu est là pour t'aider. Venez. Et je crois que cette éducation de la prière, pour moi, je la mets essentielle à toute éducation chrétienne. Et l'adoration à toute éducation humaine. On n'a pas le droit, si on a une certaine responsabilité dans l'ordre de l'éducation, on n'a pas le droit de dire je vais faire une éducation neutre.
l'infraction du péché?
Non, il ne peut pas.
Donc dans sa foi. Est-ce qu'il y a une psychologie sans la foi?
Il y a des dispositions, il n'y a pas de science. C'est pour ça que je dis qu'elle ne peut pas être... Elle peut s'appuyer sur une philosophie. Vous voyez? Alors il y a une philosophie sans la foi. Je peux regarder le comment et regarder certains, mais elle n'est pas parfaite. C'est pour ça que je disais que la théologie seule permet de montrer la théologie par le point de vue des tentations. Je reste convaincu de ça. Ce sont les tentations telles qu'elles nous sont montrées dans l'Écriture qui nous permettent d'avoir une psychologie chrétienne. Parce que le démon est anti-éducateur. Hein? Alors c'est intéressant de voir l'anti-éducateur. Et l'anti-éducateur, il tente par les... Il nous met dans la déviation.